Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
Bienvenue dans Folklore, le podcast de vulgarisation des mythes et légendes, d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. On va essayer ici de vous faire découvrir ou redécouvrir des histoires, des mythes, des légendes, voire même des légendes urbaines, pourquoi pas, qui hantent notre folklore, d'où le nom de notre podcast. La pop culture s'en est très largement inspirée des différentes mythologies et légendes pour créer des œuvres originales, sombres ou décalées. Et on va essayer de faire le pont entre les origines de ces histoires et leur impact dans la littérature, le cinéma, les séries télé, jeux vidéo, animés, etc. Avant de commencer, on tenait à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode pilote de Folklore. On a eu des retours très très positifs et très encourageants pour la suite de l'aventure.
Oui, merci beaucoup, ça nous a fait très plaisir et puis ça nous a donné plein d'idées, plein de conseils pour pouvoir nous améliorer à chaque épisode et on espère que on va pouvoir suivre tous vos conseils rapidement pour faire un podcast de qualité.
Chaque épisode sera abordé sous l'angle d'un thème principal qui mettra en avant un ou plusieurs personnages mythiques, légendaires, folkloriques. C'est-à-dire que chacun, Déborah et moi, allons présenter un personnage ou une légende. On ne sait pas ce que l'autre a préparé, ça va être la surprise.
Eh oui, grande surprise.
Oh là là, j'ai hâte.
Oh là là.
Et pour honorer la Saint-Valentin, l'épisode 1 de Folklore se drape dans le rouge. On allume les bougies et c'est parti, All You Need Is Love.
Cette histoire s'est déroulée il y a très très longtemps, à l'époque des mythes et des légendes.
Je suis Shiva, le dieu de la mort.
Dia de los Muertos a commencé.
En fait, je suis une Shinigan.
Nom de Zeus!
Avant de commencer, un petit disclaimer pour rappeler que Folklore, le podcast, c'est une émission de vulgarisation et non de jugement de valeur. S'il nous arrive de donner notre point de vue sur des mythes, des légendes et peut-être des croyances qui font écho à celles de certaines et certains d'entre vous, sachez que nous respectons toutes les croyances et toutes les religions et que notre but, c'est pas de faire de la théologie ici. Nous ne sommes pas des spécialistes, on est juste des gens curieux et avides de découvertes. Donc s'il y a certains sujets que nous pouvons aborder ici et qui manquent peut-être de contexte ou d'approfondissement, toutes nos excuses, il est parfois difficile de résumer des œuvres mythologiques, parfois complexes, en quelques minutes pour répondre à l'impératif du format du podcast, mais vous êtes évidemment encouragés à partager vos connaissances en commentaire, en nous suivant sur la page Facebook folklore-le-podcast, et sur Twitter, notre petit nom c'est Le Folklore tout attaché. Bonne écoute!
All You Need Is Love, 1967, les Beatles. Ça résonne assez bien avec mon folklore du jour, puisque l'un des protagonistes est musicien. Oh. On va parler d'amour, on va parler de mort,
oh.
On va parler de l'amour qui défie la mort,
uh-huh.
On va parler d'Eurydice et d'Orphée.
Oh.
Est-ce que tu connais un peu l'histoire d'Eurydice et d'Orphée?
Un petit peu, oui. Mais j'avoue que je la connais en surface, j'ai jamais trop creusé, et ça tombe bien, du coup.
Voilà, tu vas voir, c'est assez passionnant. Moi, j'ai découvert des choses, j'ai réinterprété des comment j'avais perçu le mythe quand j'étais jeune. Enfin bref, on va parler de tout ça.
Mm-hmm.
Donc, Orphée, c'est le fils de Calliope, muse de l'éloquence et de la poésie.
Ouais.
J'en aurais bien besoin des fois, d'ailleurs.
Toi ?
Moi, oui.
J'avoue.
Et Doacre, le droit de Thrace. En fonction des versions, Orphée, il serait aussi le fils d'Apollon. Mais j'ai pas réussi à trouver de version qui tranche officiellement sur cette croyance. Mais dans tous les cas, Apollon, c'est le mentor d'Orphée.
D'accord.
Est-ce que c'est son mentor parce que c'est son père ou pas? On sait pas, il n'y a pas de version officielle.
D'accord, c'était peut-être sa figure paternelle.
Voilà. Donc forcément, avec son background, Orphée, il gère un petit peu tout ce qui est poésie et musique.
Mm.
C'est un peu le Mozart de son époque ou Mozart qui serait l'Orphée de son époque. Ça...
Mmh. Oui, je pense que c'est plutôt ça, puisque pour que Orphée soit Mozart, il lui fallut que Mozart soit là avant Orphée.
Eh oui, il ne le connaissache pas.
Connaissache. Ouais, très bien.
Je verrai si on coupe ça au montage ou pas.
J'espère que non.
Apollon lui offre une lyre, forcément un musicien.
Oui, c'est quand même mieux qu'une petite guimbarde, quoi.
Voilà. Je suis sûr qu'avec un triangle, ça aurait été moins fun comme histoire.
Oui, j'avoue.
Et les muses lui ont appris les arts et la musique. Et du coup, pour rendre hommage aux muses, il ajoute deux cordes à sa lyre pour qu'elle ait 9 cordes.
Est-ce que ça a la même signification d'avoir plus d'une corde à son arc? Est-ce qu'on peut dire j'ai deux cordes à ma lyre? Non.
Neuf cordes à ma lyre?
J'ai 9 cordes à ma lyre. Ça serait classe quand même. Oui. S'il y a des musiciens qui nous écoutent, dites-nous en commentaire si effectivement ça se dit ou si c'est un petit peu désuet.
Moi, j'ai déjà, une idée de réponse, mais
oui,
je ne voudrais pas te vexer.
Oui, on peut y croire, on a le droit.
Tout à fait.
On est dans le folklore, on peut croire à ce qu'on veut.
C'est pas faux.
Voilà.
Grâce à la musique, il calme et charme tout le monde. Les hommes les plus vénères, ils se calment. Les animaux les plus féroces, même les monstres, ils se calment. Et là où il est vraiment balèze, c'est que les plantes et les roches le suivent pour écouter sa musique.
C'est quand même un peu dangereux. Autant les plantes, bon, enfin ça dépend. Si c'est une pâquerette, ça va. Si c'est un énorme conifère, c'est quand même plus dangereux.
Premier fait marquant d'Orphée, il a fait partie des Argonautes. Parce que tu connais.
Alors, le terme argonautes, ça me parle. Quelque chose et les argonautes. Il n'y a pas un titre comme ça?
Titre.
Non, ouais. Oui, c'est bizarre quand même comme titre.
Non, en fait, les argonautes, c'est le groupe de héros qui a fait équipe avec Jason pour la recherche de la toison d'or.
D'accord.
Jason qui n'a rien à voir avec celui avec une machette et un masque de hockey. C'en est un autre, celui-là.
Bah non, c'est pas Jason, c'est Jason.
Jason.
C'est pour ça.
À la
toute la nuance est dans le...
Jason et les Argonautes.
On peut faire un super crossover.
C'est clair. Mais justement, on en reparlera après. Je m'attarde pas trop sur l'histoire des Argonautes, parce que ça mériterait un épisode de folklore en entier dessus.
Oui, bah non, du coup.
Mais rapidement, pour récupérer le trône de sa famille, dont il a été destitué après la mort de son père, Jason doit récupérer la toison d'or d'un bélier fantastique.
Toison d'or d'un bélier fantastique.
En fait,
il y a un bélier qui est fantastique,
et sa toison est en fait en or.
Sa
laine est en or.
D'accord, ok.
Voilà. Du coup, il monte un crew, pour histoire de se dire, on va aller faire ça.
J'espère qu'ils y vont en dansant.
Et donc, il y a plein de héros qui en font partie, dont Orphée.
D'accord.
Y avait aussi, rapidement, sans rester dedans, Castor et Pollux, Héraclès, dit Hercule, Thésée et Pelée, qui est le père d'Achille.
Ouais, ok.
Donc on est quand même sur... c'est un peu les Avengers de la mythologie.
Ouais. Ou alors les Expendables.
Voilà. moi, je voyais bien ça comme le mythologique cinématique univers.
le MCU, ça reste.
Ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Et donc... On peut se dire, bon, mais qu'est-ce qu'il va foutre avec sa petite lyre Orphée dans une aventure un peu extraordinaire.
Oui, du coup, si c'est pas un arc avec plusieurs cordes, ça, c'est quand même...
Voilà.
Quoi.
Puis t'as Héraclès, quand même, d'un côté, qui t'attend des lions et des hydres, et de l'autre, t'as Orphée qui joue de la musique. Mais on va voir que c'est quand même vachement utile.
Ah, ça peut enjailler les troupes. Hein.
Bon, déjà, il y a ça. Ça enjaille un peu l'équipage pour...
pour la baston.
Ouais. Non, pour la cadence, parce que il fallait qu'il rame.
Ah oui, on est toujours dans... Ah oui,
on est sur les Argonautes.
Ah ouais.
On parle de tout ce qu'il a fait dans les Argonautes.
D'accord.
Donc, premier point que j'allais venir, il a motivé l'équipage. Grâce à son chant, le bateau est descendu tout seul dans l'eau. Je pense que le bois a dû réagir à la musique enchantée d'Orphée.
D'accord.
Il a immobilisé les Symplegades, ces deux falaises qui bougeaient tout le temps, qui s'entrechoquaient en permanence. Et du coup, les bateaux ne pouvaient pas passer. Mais comme on a vu que Orphée, sa musique agit sur la nature, ça s'est arrêté et le bateau a pu passer tranquille.
D'accord.
Il a aussi réussi à charmer le serpent géant qui gardait la toison. Parce qu'un serpent qui garde un bélier, pourquoi pas.
Oui, il gardait la toison qui était sur le bélier, qui était gardé par le serpent.
Voilà.
D'accord.
C'est logique.
C'est la mythologie en même temps.
Voilà. Et ensuite, là où quand même son plus gros fait, c'est qu'il a réussi à vaincre les sirènes et leur chant maléfique qui envoûtait les marins pour qu'ils se crachent sur les récifs.
Il s'est mis des trucs dans les oreilles ?
Non, ça c'est Ulysse.
Ah, on a raté, ouais.
En fait, il a joué de sa musique, et sa musique était meilleure que...
C'était un peu... badass !
C'était un peu un battle, en fait, de musique. Moi, je vois ça comme un battle de rap, tu vois. Orphée dans la place.
J'aime beaucoup. Voilà. Il faudrait faire un genre de sexy dance, mais version
les Argonautes.
Et ouais, voilà, c'est ça.
Voilà. Est-ce que vous êtes là, les Argonautes?
Tout le monde fait ouais. Bref,
voilà un petit peu pour tout ce qu'il a fait chez les Argonautes.
D'accord.
Mais je pense qu'on y reviendra à l'occasion sur un épisode spécial, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, rien qu'avec tous les personnages présents. À son retour, il rencontre Eurydice.
Oui.
Quand même, il faut bien qu'il y ait un love interest.
Ah bah, super.
Ben,
love interest, c'est la meuf.
J'avoue que quand, à la base, j'ai choisi ce folklore, je pensais qu'il y aurait un couple et peut-être développer un peu l'histoire d'Eurydice, il s'avère qu'elle ne fait pas grand-chose à part être là. C'est quand même une dryade. C'est le nom qu'on donne aux nymphes qui sont liées aux arbres.
D'accord. Je ne savais pas ça. Enfin, je ne savais pas qu'Eurydice était une dryade.
Oui, une nymphe.
Une nymphe.
Voilà. Ça, je préfère dire nymphe, c'est plus facile pour moi.
Je t'en prie.
Tout de suite, ils se regardent, c'est le coup de foudre. Et ils décident de se marier très vite.
Because all you need is love.
Sauf que forcément, on est dans la mythologie, ça va très bien se passer.
C'est pas les vécures heureux et ont beaucoup d'enfants.
Quoi. Non, on est dans la mythologie. Faut qu'il y ait la, faut qu'il y ait du sang, faut qu'il y ait
de la souffrance, il faut qu'il y ait.
Voilà. Et l'inceste aussi, on est dans
la mythologie. Ouais, tant qu'à faire. Ouais. Et de l'argile parfois.
Et de l'argile. On a vu qu'il y a souvent de l'argile, mais pas là, étonnamment. Du coup, Aristée, le dieu de l'agriculture et de la domestication des abeilles.
Mm-hmm. Ok.
C'est pas moi qui choisis ce que font les dieux, hein. Il y a un tirage au sort à un moment donné.
Non, mais je trouve ça vachement cool de domestiquer des abeilles.
Ah, et pour faire du miel.
Eh ouais.
On est dans, cool. dans les dieux très.
Et pour encourager la pollinisation, on est sur un dieu écolo, quoi.
Voilà.
C'est bien.
Et qui aime bien la bouffe, parce que agriculture, quand même.
Ouais, attends, faut pas déconner.
Le dieu du saucisson.
Oui, bon.
Bah, lui, il a bien envie de se la pécho, la petite Eurydice. Hein. Et le jour de son mariage avec Orphée, il y court après. Elle, elle n'est pas intéressée. Mmh. Elle s'enfuit et elle marche sur un serpent qui lui mord la cheville et elle meurt.
Ok.
Voilà. On est,
voilà jusqu'où va le harcèlement de rue, voilà. Monsieur.
Hashtag balance ton dieu.
Balance ton dieu. Bah, tu peux en balancer un paquet quand même.
C'est
hein,
clair.
Parce que...
Il y a quand même une petite variante dans ce que j'ai vu. Mmh. Je l'ai dit, mais c'est pas très important pour la suite, mais je trouve ça intéressant de voir un petit peu les variantes. Orphée et Eurydice se marient. Ouais. Ils s'installent à Thrace, la ville d'Orphée. Ils ont même un enfant qui s'appelle Musée.
Ah.
Je connaissais pas trop, lui. Mais du coup, un matin, alors que Eurydice a fait des trucs de nymphes, dont se baigner dans un lac avec les autres nymphes...
Ça, c'est clairement un truc de nymphes.
Exactement.
Ouais.
Elle se fait harceler par Aristée, et c'est là qu'elle se fait mordre par le serpent en s'enfuyant.
D'accord. Et c'est pas le même serpent que celui qui gardait la toison d'or, du coup ?
Non, c'est un plus petit serpent.
Ah, d'accord.
C'est pas, la toison d'or, c'est plus le basilic dans Harry Potter.
Ok.
Les nymphes, elles sont quand même bien vénères, et faut mourir toutes les abeilles d'Aristée.
Non, mais ça, c'est pas cool. Mais elles y sont pour rien.
Bah ouais, mais comme il aime bien ses abeilles...
C'est vraiment des...
Bah, jugement, quoi.
Non, là, c'est pas jugement. Là, c'est...
Punition.
Là, c'est punition. Là, c'est fais justice toi-même. C'est pas...
Ah, c'est des divinités, ceux qui font justice, en général. Et du coup, pour les calmer, il fait plusieurs sacrifices à leur nom, et ça les calme. On est sur, quand même, une humaine qui meurt contre des abeilles qui meurent. Bref, revenons à ce cher Orphée. Il est pas au top de sa life.
Ouais, il a quand même perdu son crush, quoi.
Voilà, sa meuf vient de crever. Elle est descendue aux enfers. Il faut savoir que dans la mythologie grecque, les enfers n'ont pas la même signification que dans ce qui est devenu l'imaginaire collectif dans notre société issue du christianisme.
D'accord. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que dans le christianisme, les enfers, c'est là où vont les gens qui n'ont pas été très bien et qui sont punis pour l'éternité.
Ouais.
Dans la mythologie grecque, on dit les enfers.
Ouais, donc il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs, et c'est l'équivalent du royaume des morts.
D'accord. Donc en fait, c'est juste tes morts, tu vas aux enfers. Quoi.
Aux enfers.
Ok.
Et il y a plusieurs niveaux en fonction du jugement rendu par Hadès. Allant des Champs-Élysées où c'est plutôt cool, c'est un peu le paradis, jusqu'au Tartare où là ça pue un peu du cul, c'est l'équivalent des enfers, de l'enfer tel qu'on le connaît ici.
En plus, si le Tartare pue, c'est qu'à mon avis la viande elle est pas fraîche.
C'est pas faux. Je suis pas sûr que t'aies beaucoup de viande fraîche dans les enfers, enfin dans le Tartare.
Ouais, c'est pas faux. N'empêche que ma blague était drôle. Quand
elle était drôle, on va la garder au montage.
J'espère.
Il faut savoir que dans la mythologie grecque, il y a une porte d'entrée des enfers à la surface.
D'accord, donc on peut descendre aux enfers comme ça, quoi.
Tu peux essayer, mais on verra que c'est pas si facile.
D'accord.
Mais Orphée, il a la puissance de la musique. Et il va y aller sans problème.
Ça me fait penser à la gigue folle, ou je sais pas quoi, là, dans Alice de Burton.
Ouais.
Comment ça s'appelle ?
La gigue en délire.
La gigue en délire. J'imagine bien le mec à l'entrée des enfers.
Ah non, mais lui, il danse pas, il joue.
Oui, d'accord, mais...
Pouvoir de la musique. Tout d'abord, il charme Charon. Pas facile à dire, Richard Macharon. C'est celui qui fait franchir le Styx au défunt. C'est lui qui choisit les âmes qui vont traverser pour aller du Styx, enfin qui vont traverser le Styx pour aller dans les enfers et être jugés. Il faut payer un petit peu pour passer.
Ouais.
C'est pour ça que dans la tradition grecque, on mettait une pièce dans la sépulture des défunts. Mais lui, grâce à la musique, ça passe sans problème. Ensuite, il tombe sur Cerbère, le chien à trois têtes. Mmh. Et là, forcément, grâce à la musique, Cerbère se calme, alors que c'est un chien assez vénère. Il a trois têtes, je l'ai dit ou pas ?
Je sais plus, mais comme je le savais déjà, c'était déjà intégré dans mon cerveau, dans mon subconscient, le fait qu'il avait trois têtes.
Voilà. Il y a une version où ils disent qu'il a 50 têtes. Mais ça fait beaucoup.
Pareil, quoi.
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Et donc, c'est comme dans Harry Potter, quoi. Il fait un peu de musique et ça endort le chien.
Exactement, ouais, c'est vrai. En fait, ils ont rien inventé dans Harry Potter.
Non. J.K. Rowling, niveau originalité, zéro pointé, quoi.
Fais gaffe, on va voir tous les Potterheads qui vont nous tomber dessus.
Non, au bûcher !
Enfin, dernière épreuve, il passe les Erini. C'est 3 DS qui jugent les humains et qui les punissent.
Voilà. Donc en gros, si t'as fait des conneries,
c'est elles qui
dans
vont
ta vie, elles vont te punir.
C'est ça, c'est elles qui vont...
Elles vont te rétrograder du... Je ne me rappelle plus déjà le nom de l'enfer.
Des Champs-Élysées.
Des Champs-Élysées au Tartare, en passant voilà. Par les strates intermédiaires.
Exactement. Okay. Celles qui vont déterminer un petit peu où tu vas atterrir.
Ok.
Alors, je dis ça comme ça, ça a l'air d'être un peu le Club Med, mais... c'est pas non plus l'éclate. Mmh. Il croise des cyclopes, des centaures, des harpies. Mmh. Mais grâce à la puissance de son amour qui le guide, il va par au bout ses chemins et va tout le temps aller en avant. En plus, il était protégé par sa musique qu'on a vue, calme tout le monde. C'est un peu impie, en fait. On raconte même que grâce à sa musique, la plupart des personnages qu'on connaît de la mythologie qui étaient torturés aux enfers, leur supplice se calme. Par exemple, on avait Tantale qui cesse d'avoir faim et soif. Tantal, c'est celui qui, chaque fois qu'il veut attraper à manger ou à boire, les feuilles avec les fruits se lèvent.
Et les fruits pourris ou un truc comme ça
non, en fait, les fruits de souvenir, il y avait du vent et les fruits se levaient, il ne pouvait pas les attraper.
D'accord.
Et chaque fois qu'il voulait prendre de l'eau, l'eau se résorbait et il ne pouvait pas boire.
D'accord.
La réduction s'arrête de tourner et le rocher de Sisyphe stoppe sa dégringolade de la montagne.
D'accord.
Puisque Sisyphe, pareil, il devait monter le rocher en haut s'il son supplice et chaque fois qu'il arrive en haut,
le rocher est retombé.
Ouais. C'est les enfers, hein.
Bah, en même temps, voilà. Ils avaient qu'à être moins cons et rester au niveau des Champs-Élysées.
Yeah, mais c'est pas eux qui décident.
Oui, mais ils avaient qu'à pas faire de la merde dans leur vie, tu vois.
Bah, on va pas revenir sur ce débat, parce qu'il y a des trucs que je les connais pas assez pour argumenter.
Oui.
Mais il y a des gens, ils ont aidé les humains, ils sont punis par les dieux.
Oui, bah ça je sais.
Voilà. Il finit par arriver chez Hadès, le boss des enfers.
Ouais.
Et chez Perséphone, sa femme. Mm-hmm. On parlera d'elle sûrement dans un autre épisode, parce qu'il y a une histoire assez intéressante autour d'elle. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il fait Orphée ?
Eh bien, il fait de la musique !
Exactement, il balance son flow. Et ça fonctionne, forcément.
Mais il est quand même cheaté, ce personnage mythologique.
Il a le pouvoir de la musique.
D'accord.
Est-ce que les Beatles étaient cheatés, Déborah ? Est-ce que Mozart était cheaté ?
Oui.
D'accord. Donc, Perséphone est touchée par la musique très mélancolique et triste de Orphée. Et elle accepte que Eurydice reparte avec lui, mais à une condition.
Ah oui, je sais. Il faut pas qu'il se retourne et qu'il la regarde avant d'être sorti des enfers.
Exactement.
C'est ça.
On est dans la mythologie grecque, rien ne peut se passer tranquillement, il faut toujours qu'il y ait une condition
c'est ça.
À faire. Mais bon, il se dit easy, franchement, je marche, je me retourne pas. Et,
ça fait des semaines et des semaines qu'elle est crevée.
On n'a pas l'intemporalité, mais,
oui, mais bon,
ça a l'air d'être assez facile.
Ça fait un petit moment qu'il ne l'a pas vu, il peut se dire « je peux tenir 10 minutes de plus, j'attends de tout repartir ».
Donc, il commence à marcher vers la surface, et là, Orphée, il commence à douter. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas regarder Eurydice ? Pourquoi Perséphone lui a donné une condition aussi absurde pour récupérer sa bien-aimée ? Et là, il commence à dire « ah, mais attends, est-ce que c'est pas un piège ? Est-ce qu'on n'essaierait pas de me carotte pour que je sors des enfers et que je ne fasse pas de scandale ou quoi ?» Et donc là, il se retourne, il voit Eurydice, et elle est respirée dans les enfers, pour l'éternité cette fois.
Mais quel trou du cul.
Et du coup, ben, Hadès refuse de lui donner une autre chance.
Bah évidemment.
Je t'ai fait confiance.
C'était dans le contrat, c'était voilà. Anti, c'était dans le contrat.
T'as trahi la confiance que j'avais mis à l'intérieur de toi. Il y a une autre version que je trouve un peu moins intéressante, où il serait arrivé à la surface, presque à la surface, il aurait vu un rayon de lumière, et il a cru être arrivé, il se retourne et c'est là qu'il se fait carotte. Mmh. Mais je trouve que symboliquement, c'est moins intéressant. J'expliquerai un petit peu pourquoi après. Donc, Orphée, il rentre chez lui, il a le seum, il est inconsolable. Beaucoup de femmes sont allées le voir pour dire « Ah, mais moi, si tu veux...
»« Hé, moi, je suis là !» Bah, c'est joli, ce petit mouvement de...
c'est un musicien. Orphée, c'est un peu le mec relou avec la guitare dans la soirée.
Ah oui, d'accord.
Tu vois, le truc que tous les filles font « Ah, il joue trop bien !» Mais lui, il refuse. Il a une seule femme, c'est Eurydice. Bon, par contre, il se tape des mecs. Il se dit, bon, je reste fidèle à ma femme.
Écoute.
Je reste fidèle à ma femme, mais un mec s'est pas trompé.
D'accord. Pourquoi pas. Écoute.
Voilà. Mais au bout d'un moment, les femmes, elles sont un petit peu jalouses et vénères, parce qu'elles aimeraient bien se pécho Orphée.
Ouais.
Exactement. Oui, mais tu permets, je finis de raconter mon histoire. Et par jalousie et frustration, elles ont buté Orphée.
Ok, voilà. C'est radical, mais pourquoi pas.
Elle attaque, elle le découpe et elle le tue, dans cet ordre. Parce qu'il a été découpé vivant, on a jeté ses morceaux dans le fleuve le plus près, et pour lui rendre hommage, Zeus récupère sa lyre et la transforme en constellation dans les étoiles. Et en plus, il met son âme aux Champs-Élysées. Fin.
Eh ben, c'est fou.
Ouais.
Je connaissais un petit peu des trucs, genre la fin de l'histoire, je la connaissais, mais toute la partie, tout le début, je connaissais pas. Je m'étais attardée sur
les
grandes lignes.
Juste une petite conclusion avant de te passer la main.
Uh-huh.
Donc, pourquoi j'ai choisi Orphée et Eurydice ? Bon, déjà, je voulais parler d'un couple, mais au final, bon, on se rend compte que...
C'est quand même le bonhomme qui tire toute la gloire du truc, quoi.
Toute la gloire, je sais pas si on peut parler de gloire, mais c'est lui, en fait, le personnage principal. Mais ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'en fait, Orphée, c'est un héros, en fait, qui n'est pas dans l'agressivité, qui n'est pas là pour la baston.
Mm.
Il règle toujours tout par la musique. Et donc, je trouvais ça bien dans une mythologie où on est sur la baston.
Ouais, c'est vrai. D'avoir plus de poésie.
De valeur un peu plus pacifique.
Mm.
À aucun moment, donc, il tue ou pète la gueule à quelqu'un pour arriver à ses fins, même s'il est désespéré, parce que c'est vraiment ça le truc, c'est qu'il est au bout de sa life. Ensuite, un des messages qui colle bien à la Saint-Valentin, parce que je suis un grand romantique, c'est qu'on est capable de tout par amour jusqu'à aller en enfer pour sa bien-aimée.
Oh,
oh.
C'est trop mignon.
Ouais, c'est quand même autre chose que de porter le plateau de ta copine quand tu vas chez McDo.
Ouais, mais c'est bien aussi.
Ouais, on est
il y
sur
a pas des petites victoires, tu vois, du romantisme.
On est sur un autre bail. Donc ensuite, je voulais revenir sur un dernier point que j'ai compris plus tard, en fait, dans le mythe d'Orphée et d'Eurydice. C'est que la première fois, en fait, que j'en ai entendu parler, j'étais en primaire au collège, je me rappelle plus très bien.
Mm-hmm.
Et je me rappelle que je me suis dit, mais en fait, t'es con, mec. T'as juste à tenir une heure de plus ou quoi, et tu pourras récupérer ta meuf. C'est quand même une condition assez, assez absurde. Et après, plus tard, j'ai un petit peu réinterprété ça, parce que tout le début du mythe, en nous vend que l'amour est plus fort que la mort.
Ouais.
Et en fait, c'est pas ce qui se passe.
Mmh.
Et Perséphone, c'est quand même une déesse assez bienveillante. Et j'ai compris que ce qu'elle voulait faire à travers cette leçon qui est peut-être un petit peu dure, c'est vraiment une allégorie du deuil. C'est qu'en fait, il faut que tu regardes vers l'avenir. Ta bien-aimée est morte,
ouais.
Tu peux plus faire grand-chose, tu as beau faire tout ce que tu veux, elle est morte, et du coup, il faut aller de l'avant, même si c'est dur, même si c'est pas facile, et voilà, c'est ce que j'ai trouvé.
C'est hyper intéressant comme analyse, ouais.
C'est ce que j'ai trouvé beau.
Très bien.
Voilà, c'est tout pour moi.
Eh ben, merci beaucoup, c'était hyper intéressant.
Eh ben, avec plaisir.
Eh ben, maintenant, on va passer à ma partie. Donc, qu'est-ce que je vais parler ?
Qu'est-ce que c'est que tout
ça ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, si la dernière fois, nous nous sommes concentrés sur des mythes, cette fois-ci, je vais vous parler de légendes. Et même de deux légendes.
Deux pour le prix d'un.
Deux pour le prix d'un. Qui ont deux points communs. L'amour, évidemment, hein, c'est quand même un petit peu le thème de l'épisode.
Oui.
Et le lieu.
D'accord.
Alors, première partie, je vais te poser une question.
Oui.
D'abord... petite question, Gabriel. Est-ce que tu connais le Pic Saint-Loup ?
Alors, je le connais de nom, mais c'est tout.
Est-ce que tu sais me dire plus ? T'as entendu parler de Pic Saint-Loup, c'est tout.
Pic Saint-Loup, plus comme une destination de vacances ou un truc comme ça, je crois.
Destination de vacances ?
Non, je me trompe peut-être.
Alors, oui, pourquoi pas ? Mais pas forcément celui auquel... Enfin, la destination à laquelle on pense en premier. On se dit plutôt Caraïbes, ah. Éventuellement... L'Espagne,
oui, mais je veux dire un
puis
truc,
Saint-Loup, c'est pas non plus...
Un truc à visiter, un truc à visiter, plus que vacances.
Bon, effectivement, le Pic Saint-Loup, c'est une montagne, d'accord ?
On serait douté.
C'est une montagne dans l'Hérault.
D'accord.
À une vingtaine de kilomètres au nord de Montpellier.
Oh !
Oh !
C'est... Tiens donc !
Patch de...
Oh là là, enfin, fan des dieux.
Fan des dieux. Alors, le Pic Saint-Loup, il est aussi bien connu des amateurs de vin, ce qui n'est pas ton cas, hein, mais voilà, puisqu'il existe une appellation d'origine protégée qui en porte le nom.
Ah, peut-être pour ça.
Ah. Enfin, ça fait pas très destination de vacances. Si
non,
c'est
mais c'est peut-être que j'ai vu sur une bouteille un vin plutôt fruité avec une belle robe qui se marie bien avec de la viande ou du fromage.
Voilà, c'est bien. Bon, bref, reprenons. Le pic du Pic Saint-Loup culmine à peu près 660 mètres et on peut le voir par beau temps depuis le Gard. Alors, je dis ça parce que je suis gardoise, donc je prêche un peu pour ma paroisse. Ma première légende, parce que comme je l'ai dit, j'ai deux légendes. Pour cette première légende, on va donc parler du Pic Saint-Loup, mais également du mont de l'Ortus. Est-ce que tu sais ce que c'est le mont de l'Ortus ?
Pas du tout.
Alors déjà, si t'avais du mal à saisir le concept du Pic Saint-Loup, le mont de l'Ortus, ça va être un peu plus compliqué. Mais en fait, le mont de l'Ortus, il est situé juste en face du Pic Saint-Loup. Donc si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous aurez sans doute vu passer l'indice hein, de cette image avec les deux montagnes qui se font face. Et d'ailleurs, pour stimuler un peu les images mentales pour les auditeurs qui ne connaissent pas le coin en question, et pour Gab aussi, manifestement, je vais décrire un peu le paysage.
Vas-y, je suis transporté.
Ferme les yeux et laisse-toi transporter. On a donc deux bouts de montagne qui se font quasiment face, l'un étant un peu plus haut que l'autre. Au centre, on a une vallée et des vignobles, hein, et des très jolis patelins, notamment le village de Saint-Martin-de-Londres. On est en pleine garrigue, donc niveau végétation... C'est du local méditerranéen. On retrouve de l'olivier, des buissons de genêt, du romarin, du buis, des ajoncs de Provence, du thym et même de la salse pareille.
Très, j'ai envie de prendre l'apéro.
Est-ce que tu sais ce que c'est la salse pareille ?
C'est le truc des schtroumpfs.
Voilà, et ben pas que. Sache que c'est un vrai végétal qui pousse en garrigue. Voilà, vous le saurez. Et on en a pas mal d'ailleurs en garrigue.
Est-ce que tu fasses les cigales pour un petit bruit d'ambiance, je crois ?
Non.
D'accord.
Pitié. Ne te prends pas pour Orphée. Donc, décor planté, voici la légende des amoureux de l'Ortus.
Ouh.
Jingle musical.
Tum-tum.
On raconte qu'à une époque très lointaine, le Pic Saint-Loup et le mont de l'Ortus ne faisaient qu'un. Au pied de cette montagne vivait une jeune et belle bergère, et quelques kilomètres plus loin, un jeune et solide berger. Un jour, alors que chacun avait mené son troupeau de moutons paître sur le flanc de la montagne, ils tombèrent nez à nez. Et ce fut le coup de foudre au premier regard. Ils revenaient chaque jour au même endroit, se jurant amour et fidélité, pendant que les moutons n'avaient plus rien à bouffer. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, quand tu viens toujours au même endroit, la végétation a besoin de se renouveler. Mais bon...
Ça se tient.
Ça se tient.
Mais ils ont tellement de points communs.
Ils ont tellement de choses à se dire. Ils sont tellement pareils.
Exactement.
Et le monde ne les comprend pas.
Bah oui, c'est beau.
Et bah justement, le monde ne les comprenait pas. Parce qu'un jour, un vieux commerçant, qui s'était fait une petite situation... est tombé sous le charme de notre bergère. Un peu libidineux et assez fier, il proposa aux parents de la petite une coquette somme d'argent en échange de la main de leur fille. Évidemment, bon bah, ces derniers, ils acceptèrent, hein, parce qu'ils avaient besoin de thunes, très honnêtement, et tant qu'à faire, placer leur fille aussi facilement n'était qu'un lointain rêve pour eux. Donc là, l'occasion fait le larron, et en plus, si on peut se faire des ronds... C'était une autre époque. La jeune fille eut vent de la manigance et s'en confia à son bien-aimé. Ils décidèrent de s'enfuir tous les deux, en partant du point de leur rendez-vous habituel, c'est-à-dire sur les flancs de la montagne. Sauf que ces deux godiches, ils n'avaient pas songé un seul instant pouvoir être bloqués par la montagne, qui s'élevait en pic, en fait, et qui rendait la montée impossible. Sauf avec du bon matos d'escalade et un minimum d'entraînement, tu vois.
Berger, mais pas fut-fut.
Ah non, berger, mais pas futé, ça c'est clair. Derrière eux, on pouvait entendre le commerçant hurler « Elle est à moi ! Je l'ai payée ! Elle m'appartient !» Notez que je fais très bien le commerçant en colère, Actor Studio, je suis disponible si vous voulez me faire jouer dans des petits rôles.
Respect. J'y étais là, moi.
Ah ouais, tu l'as vu, le gros type un peu suant qui court. Merci. Épuisés par leur course et effrayés par le futur, nos deux jeunes ont commencé à prier, à implorer les dieux de venir les aider pour s'aimer en paix. Alors oui, j'ai dit les dieux, parce qu'à l'époque, la chrétienté n'avait pas encore imposé son dieu unique, et les habitants de la région étaient païens. Donc polythéiste. Un géant, caché dans la montagne, entendit les prières du jeune petit couple et s'est décidé à leur venir en aide. Il donna un grand coup de poing dans la montagne, l'écrasant comme du beurre, et laissant en fait un passage entre ce qui deviendrait le Pic Saint-Loup et le mont Lortus. Sans demander leur reste, les deux amoureux s'engouffrèrent dans le passage pour fuir vers leur nouvelle vie. Le marchand qui les poursuivait encore se fit attraper par le géant, qui l'enferma dans une des nombreuses grottes qui venaient d'être créées par la séparation des deux morceaux de montagne. Le type pleura tellement que ses larmes seraient à l'origine des nombreux ruisseaux qui parcourent le coin et la vallée. Voilà, c'était une petite mise en bouche pour expliquer la création du Pic Saint-Loup et de la montagne de Lortus. Maintenant qu'on a posé les bases, est-ce que tu as une petite idée d'où viendrait le nom du Pic Saint-Loup ?
Alors, est-ce qu'on n'a pas un loup style bête du Gévaudan ou quelque chose comme ça par là ?
Non, la bête du Gévaudan, c'est en Lozère, c'est beaucoup plus haut.
Oui, non, mais style, je veux dire, un loup, l'animal.
C'est pas ça.
Est-ce que j'ai droit à un indice, un joker ?
Je vais te donner un indice, ça serait croisade.
Est-ce qu'il n'y aurait pas la sépulture d'un saint par là, peut-être ?
Ah, on y est presque.
Ou une relique ?
On y est presque. Bon, allez, je vais me lancer dans la deuxième légende, donc la légende des trois ermites. Parce qu'on peut dire trois ermites, parce qu'il n'y a pas de H à ermite. Et moi, j'ai toujours écrit ermite avec un H, et je me suis rendu compte, et je savais que je faisais faux en écrivant ermite avec un H, mais je m'en suis rendu compte beaucoup quand j'ai écrit ce podcast.
Mais est-ce qu'un ermite, il est pas censé être tout seul ?
Mais tu vas voir.
Ok, non, mais...
Les trois ermites, il peut y avoir trois ermites en même temps à des endroits...
C'est trois groupes d'un ermite.
Voilà, d'un ermite.
Trois groupes d'un ermite.
Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Alors, ma seconde légende, donc, la légende des trois ermites, se déroule au XIe siècle.
Très bien. D'accord ? Moyen-Âge.
C'est ça. Bien, en même temps. T'as peu de chance de te tromper, le Moyen-Âge, il est quand même assez, voilà, costaud dans le temps. Dans le château de Saint-Martin de Londres, vivait une jeune femme, Irène, fille du seigneur local, noble demoiselle d'une beauté apparemment époustouflante. Alors déjà, je fais une petite parenthèse dans cette légende pour vous expliquer un petit peu ce qu'étaient les concepts de beauté d'une femme à cette époque et les critères pour évaluer cette beauté. Parce que si vous avez écouté l'épisode pilote, vous saurez que c'est important pour moi de replacer toujours la façon dont on voit la femme et dont on traite la femme dans un contexte historique, parce que voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'interpelle. Bref. Donc, les critères de beauté d'une femme à l'époque, ils étaient évalués principalement sur 4 critères. Le premier, on considère qu'une femme est belle si elle est jeune.
Ouais.
Voilà. Parce que ça représente la virginité, la pureté, etc. On y est encore malheureusement aujourd'hui, on le voit bien, notamment au cinéma, à la télé, et dans le traitement médiatique en général, réservé aux femmes sur qui le temps a fait son œuvre naturelle. Donc, à l'époque, t'es jeune, déjà t'as un critère pour être belle. Deuxième critère, la blancheur de la peau. Ce qui signifie que c'est aussi une demoiselle de bonne famille, puisqu'elle ne travaille pas au champ. Elle pouvait chiller chez elle et faire des petits travaux de broderie à l'abri de l'agression des UV. Donc la blancheur de la peau, c'est également un signe de pureté.
Ok.
C'était encore mieux, troisième critère, si elle était blonde avec les cheveux longs. Parce que ça rajoutait à la pureté, à la fraîcheur, voire même à l'enfance presque. Il y a un truc un peu glauque derrière ça. Il faut savoir que parfois, à l'époque, enfin parfois même bien souvent, les jeunes filles étaient déjà mariées avant même d'avoir atteint la puberté, en fait, elles étaient déjà promises, donc le côté angélique et infantile, c'est un peu, voilà, c'était recherché à l'époque. Donc sur cette question de blonde avec les cheveux longs, si possible, il fallait que le front soit bien dégagé, voire dépilé. Alors pour information, la dépilation, c'est quand on brûle, en fait, le poil, ou le cheveu, parce que le cheveu est un poil. Donc ce qu'il faisait, c'est que on tirait comme ça les cheveux un peu en arrière pour dégager le front, et on venait appliquer de la chaux vive, un mélange de chaux vive et de sulfure d'arsenic sur le front des jeunes filles pour brûler les cheveux qui étaient devant et faire un front bien dégagé. Donc vous doutez bien que ce petit mélange charmant de chaux vive et de sulfure d'arsenic sur la peau, c'est pas génial, et près des yeux, c'est pas très conseillé. Donc on aime aussi qu'une femme, elle ait les sourcils bien fins, donc comme quoi les modes passent et repassent, hein. Par contre, vers le XIe siècle, on veut des cheveux attachés, raies au milieu et tressés. Donc, front dégagé, raies au milieu et cheveux tressés. Voilà. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les cheveux détachés, bah, ça fait pute et l'Église, elle aime pas trop ça. Donc,
l'Église n'aime pas trop les putes.
Généralement, ça passe pas trop la cata. Hein. Donc, on veut qu'elles aient les cheveux attachés. Et quatrième, au niveau du corps, on retrouve encore le signe de la jeunesse, on aime des petits seins bien fermes et puis une taille et des hanches bien étroites. Mais Attention.
Mais
il faut aussi que le ventre soit légèrement arrondi, un petit peu bombé pour montrer qu'elle est fertile. Voilà.
D'accord.
Parce qu'on veut qu'elle soit jeune, mais on veut qu'elle puisse enfanter. Donc ça, c'est un peu le critère de beauté. Donc on imagine un peu comme ça notre Irène, puisqu'elle est décrite comme d'une beauté époustouflante. On l'imagine, blonde, blanche comme un cul, et les cheveux tressés, le front dépilé, des sourcils tout fins, et puis toute menue, avec un petit bidou.
Très bien, voilà. je l'ai bien.
Tu l'as bien? Tu la visualises?
Okay. C'est pas mon kiff, mais chacun ses goûts. Hein.
Il vaut mieux pas que ce soit ton kiff. Voilà le portrait. Non. Évidemment, son seigneur de père voulait la marier à un bon parti du coin, histoire de faire une petite alliance des familles. Hein. Mais Irène, elle était très pieuse. Et elle avait décidé de ne se donner qu'à un véritable chrétien qui saurait lui témoigner de sa foi et de son engagement envers Dieu.
Donc là, on est revenu, du coup, par rapport à tout à l'heure, sur, on est dans vraiment l'époque de la chrétienté, du christianisme, du Dieu unique.
Oui, tout à fait, effectivement. Okay. Bah, 11e siècle, oui, ça faisait quand même à peu près, 10 ans que les évangiles avaient commencé à être écrits, diffusés. Donc ouais, oui, c'est ça. Donc voilà, pour le premier plantage de décor. Et voici que débarque le reste des protagonistes de notre légende, à savoir trois frères de la famille Roquefeuille venus des Cévennes et qui cherchaient l'amour, et certainement eux aussi un petit pacte familial. On a l'aîné qui s'appelle Guiral, qui semblait fort et grave, il dégageait un sentiment de sécurité, de maîtrise et de protection. Et ça, Irène, ça lui plaisait bien, tu vois, elle se sentait en sécurité avec lui. Le cadet, Claire, était quant à lui plus léger et insouciant, ce qui inspirait à la jeune femme la fougue et la distraction que les jeunes cherchent dans l'amour à cet âge-là, tu vois. Et enfin, Lou, le Benjamin, il était gentil, il était dévoué, et Irène était très attirée par le sentiment plein d'amour qui émanait de lui.
Donc en fait, elle kiffe un peu les trois.
C'est ça, elle kiffe un peu les trois. Et évidemment, les trois la kiffent.
Eh ben oui.
Voilà.
Qu'ils fassent comme Arjuna, qu'ils se partagent.
C'est vrai, ils auraient pu faire tourner Irène, sauf que bon, c'est pas très chrétien. Donc Irène, elle a eu une autre solution. Puisqu'elle savait pas trop lequel choisir, elle a décidé de s'en remettre à Dieu. Elle va expliquer à nos trois bonhommes qu'elle choisira celui qui aura le mieux défendu la Terre Sainte lors d'une croisade pour délivrer Jérusalem. Le titulaire du marché, ça sera donc celui qui aura rempli le plus de missions à la gloire du Seigneur.
Alors, je rebondis un peu sur ce que tu disais sur les valeurs de la femme à l'époque. On est quand même là sur des valeurs masculines très viriles, très. C'est par la guerre qu'on se révèle,
tout
qu'on prouve sa valeur.
Tout à fait. Bah, là, c'est quand même elle qui leur demande. Hein.
Oui, mais pour choisir celui qui sera la meilleure partie, qui sera digne de lui, selon Dieu.
Tout à fait.
Donc,
exactement.
On est vraiment sur la virilité telle qu'on peut la voir avec il faut que je sois quelqu'un de fort, de brutal, c'est
tout
vraiment les valeurs de la masculinité de l'époque aussi.
Alors brutal, oui et non, parce que tu peux...
Brutal au nom de Dieu.
Brutal, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'était surtout, tu en as un qui est plus effectivement la masculinité limite toxique avec Guiral. C'est-à-dire, tu vois, il est très... il est fort, il veut montrer qu'il est... C'est un bonhomme,
baston.
Tu vois. Baston, voilà. À côté de ça, t'as quand même le Benjamin, Lou, qui est lui beaucoup plus tendre, beaucoup plus dans la recherche de l'amour, de la sincérité du cœur, etc. Donc, peut-être que chacun mènera sa croisade comme...
À sa façon.
À sa façon, tu vois.
Ouh, j'ai hâte de savoir la suite.
Voilà. Donc, si on se repenche rapidement, justement, sur la période historique à laquelle est censée se dérouler cette légende, c'est-à-dire au XIe siècle, c'est le début de la première croisade. Dans le coin, c'est le comte Raymond de Saint-Gilles, qui est un grand seigneur occitan et qui commande l'une des quatre armées de cette première croisade. Celle qu'on appelle la croisade des Provençaux. On est en Provence, d'accord ? On peut donc imaginer que c'est à cette croisade et sous le commandement du comte de Raymond de Saint-Gilles que Guiral, Claire et Lou partent pour libérer Jérusalem, selon les termes employés pour cette croisade.
Très bien.
La première croisade dure 3 ans, de 1096 à 1099. On ne va pas s'étendre sur les activités des croisés pendant cette période, parce que ce n'est pas le sujet. Et je ne pense pas avoir la même conception de la foi qu'eux, parce que massacrer des gens sous prétexte qu'ils ne croient pas au même Dieu que vous, c'est pas ce que je considère être un acte héroïquement chrétien, ou héroïquement n'importe quoi d'ailleurs, et on a encore malheureusement trop souvent des actes de ce type qui sont réalisés aujourd'hui. Notre Irène, elle attend, pas que le monde change, mais juste d'avoir quelques nouvelles de ses crushs pour savoir s'il y en a au moins un qui va rentrer, quoi. Tu vois.
Ah oui.
Sauf qu'aucune nouvelle ne lui parvient des frérots, et elle se demande s'ils sont pas morts.
Ah, c'est con.
Morts par sa faute, hein? Parce qu'elle les a envoyés là-bas. Morts parce qu'aucun, finalement, aux yeux de Dieu, n'était assez méritant pour pouvoir... Ken Irène, quoi, voilà.
Ken Irène.
Bref, elle déprime. Non, enfin, elle déprime pas, en fait. Elle se laisse clairement dépérir, littéralement. Elle cesse de s'alimenter, elle se lamente du matin au soir, et évidemment, il arrive un jour où, emportée par le chagrin et la culpabilité, elle rend son dernier souffle. Encore une fois, une belle image de la femme qui, sans ses hommes à ses côtés, ne peut imaginer un seul instant de vivre. Hein ?
Je suis pas vraiment d'accord. C'est peut-être plus la culpabilité qui l'a fait mourir.
Oui, mais justement... beau message pour la chrétienté aussi, parce que, selon cette religion, la culpabilité n'a pas lieu d'être si l'on s'est confessé de ses péchés. D'autant plus que elle a laissé Dieu décider pour elle. Donc, elle ne devrait pas culpabiliser de quoi que ce soit, tu vois ? Le concept de la culpabilité, là, pour moi, il ne doit pas rentrer en compte. Parce que si tu es chrétien, tu te confesses, tu es censé... Basta, tu vois ? Tu te dis, ok, ça va, je me suis confessé, c'est bon.
Ouais.
Enfin, en plus... Elle n'a même pas besoin de culpabiliser, puisqu'elle a remis son sort amoureux entre les mains de Dieu. Tu vois ?
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est quand même plus la culpabilité, parce qu'elle reste pas moins humaine. Elle peut pas non plus se dissocier émotionnellement de ce qui est arrivé à ses prétendants.
Ouais, je suis d'accord, mais bon, après, elle est censée être jeune, voilà. Des mecs, elle peut en avoir d'autres, quoi, meuf. Reste pas bloquée sur...
Orphée, il est allé chercher sa meuf en enfer.
Bah, on voit comment il a fini découpé.
Oui.
Elle avait qu'à passer à autre chose. Bref, on s'égare un peu. Irène est morte, et évidemment, des funérailles sont organisées. Mais vlatipa que les gars décident de rentrer pile poil le jour de l'enterrement, chargés de 1000 richesses venues d'Orient. Et certainement allègrement pillées aussi, au passage.
C'était une autre époque.
Chacun avait accompli sa mission, et avait même dépassé tout ce qui était imaginable. Les types, ça faisait 3 ans qu'ils marchaient, parce qu'ils n'ont pas traversé en bateau pour aller jusqu'à Jérusalem. Hein. Non, ils ont traversé en faisant tout le tour de la Méditerranée. Ils se sont battus pour pouvoir épouser Irène. Ils ont sûrement failli crever 100 fois. Ils ont dû choper la dysenterie, des coups de soleil, buter des gens, piller des baraques, etc. Et quand ils rentrent enfin pour la pécho, elle leur fait l'affront de caner 3 jours avant. Moi, je trouve ça dégueulasse quand même. Les mecs, ils doivent les avoir là, tu vois.
Ah, c'est la SNCF,
hein.
Les retards de la SNCF.
Guiral, Claire et Lou, ils sont dégoûtés. Bah, faut dire qu'ils ont tout donné pendant 3 ans pour elle. Ça a aussi beaucoup affecté leur fratrie, d'être en compétition comme ça. Et tout ce chagrin accumulé les mène à une conclusion simple, efficace. Bah, on se retire de la vie sociale et on vit en ermite. Comme tu le disais, ils vont pas vivre en ermite ensemble. Après une dernière accolade de bro, chacun part dans son coin. Guiral, il part vers le nord, vers un rocher dans le Gard, quasiment limitrophe de l'Aveyron. Claire, lui, se dirige vers Sète et s'installe sur un mont proche de la mer. Lou, quant à lui, il n'est pas trop loin, il gravit un pic érolté, il s'installe là. Avant de se quitter, ils se sont fait une promesse. Une fois par an, le 19 mars au soir, pour l'anniversaire d'Irène, chacun devra allumer un brasier en mémoire de la bien-aimée et aussi pour signifier aux autres qu'ils sont toujours en vie. Évidemment, il arrive une année où le brasier de Guiral ne s'allume pas. Puis, celui de Claire, et enfin, celui de Lou. Les 3 amoureux sont morts. En leur hommage, on a donc donné leur nom au mont qui les avait abrités. Le mont Saint-Guiral, le mont Saint-Clair à 7, qui porte donc le nom de Claire, et évidemment, le pic Saint-Loup.
D'accord.
Pour vous raconter cette légende, je me suis inspirée de nombreux textes que j'avais regroupés et retravaillés pour vous livrer cette version. Parce que pour chaque légende, il y a autant de versions que de personnes qui les transmettent. Par exemple, dans certaines versions, ce sont les 3 chevaliers qui sont fils du seigneur de Saint-Martin de Londres. Irène s'appelle Marie, ou parfois Bertrade. Ou alors elle est la fille, elle, d'Arnaud de Rogue, qui vivait au château d'Esparon. Enfin voilà, il y a tout un tas de morceaux. Donc, moi j'ai pris un petit peu ceux qui me semblaient les plus sympas, et puis j'ai fait un gros mix de tout, parce que de toute façon, les sources étant ce qu'elles sont, j'avais pas forcément le temps d'aller compiler toutes les archives de l'Hérault, du Gard, de la région marseillaise pour pouvoir retrouver toutes les informations nécessaires. Et puis c'est une légende.
Oui, mais on a...
Légende à la base.
On a une responsabilité envers nos...
C'est ça.
Nos folkloreurs. On est là pour...
transmettre la vérité.
Exactement.
Bon, il y a une nuance en tout cas que je trouve la plus intéressante. C'est que dans certaines versions, à la place de Guiral ou de Claire, on a Alban. Ils sont toujours trois, mais soit Giral, soit Claire est remplacé par Alban.
Qui est Alban ?
En référence, en fait, au Mont Saint-Alban, qui se trouve en Aveyron. Et ça témoigne aussi du besoin, à une certaine époque, de trouver une explication à l'existence de lieux et de les sanctuariser en les incluant dans une légende. C'est très fréquent dans les légendes, on aura l'occasion de le revoir à de nombreuses reprises dans ce podcast. C'est aussi une volonté, je pense, ça c'est une interprétation que je fais, j'ai trouvé ça dans aucun texte que j'ai lu, mais je pense que c'est aussi une volonté de rappeler et de transmettre de façon orale par la légende l'étendue du territoire qui était sous les ordres du comte Raymond de Saint-Gilles, qui s'étendait en fait à cette époque d'Albi-Toulouse, à peu près, jusqu'à la Camargue. Et donc en fait, quand on regarde un petit peu comment sont disposés les trois monts, en fait, ça fait comme un triangle qui permet en fait de voir, bon c'est qu'un tout petit bout, hein, parce que ça se concentre sur une partie du terrain, mais je pense que si on creuse un peu, on devrait pouvoir trouver d'autres légendes ou d'autres versions de cette légende qui intègrent un périmètre plus large, et je pense que c'était aussi une façon voilà, de raconter une histoire d'amour sous fond de première croisade, comme pouvaient le faire parfois les troubadours, voilà. C'est un petit peu ce que... Je vous mettrai de toute façon en description une source en particulier qui reprend un peu toutes ces versions, comme ça vous pourrez voir toutes les nuances.
Eh ben voilà. C'était top.
Ça t'a intéressé ?
C'est très intéressant.
Eh ben merci.
Super.
Du coup, on passe à la partie référence pop culture.
Yes. Donc, est-ce que toi, déjà, Deb, t'as des trucs à nous partager entre le Picsaint-Loup et les amoureux de l'Ortus ?
Alors non, j'ai pas de référence en particulier à vous partager, parce que ce soit le Picsaint-Loup ou même ces deux légendes sont juste particulièrement peut-être connues des gens, des locaux, mais pas forcément transmises de façon voilà, massive dans la pop culture. Néanmoins, vous aurez peut-être vu, si vous suivez l'humoriste Rémi Gaillard, vous aurez peut-être vu qu'il avait organisé en 2009 une fausse arrivée d'une étape de Tour de France avec beaucoup de cyclistes amateurs et puis des spectateurs qui étaient venus encourager le truc, etc. Et ça se passait au Picsaint-Loup. Voilà, donc c'était un petit peu la petite anecdote que je peux faire. Mais sinon, non, c'est pas très présent dans la pop culture. Même s'il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent du Picsaint-Loup, quelques ouvrages aussi qui racontent ces légendes-là. Mais bon, ça fait pas partie du MCU, quoi, voilà.
Ouais, on est vraiment sur un folklore local, quoi, on peut
dire. Oui, voilà, c'est ça.
Alors, pour ma part, par contre, j'ai eu pas mal de trucs, parce que Orphée a inspiré un max de bandes dessinées, films, opéras, musique, etc. Donc j'ai fait une petite liste en piochant dans chaque médium.
Ok.
Premièrement, je vous conseille le livre « Le dernier chant d'Orphée » de Robert Silverberg. C'est un roman qui est revenu beaucoup de fois dans les recherches que j'ai faites. J'ai pas eu le plaisir de le lire, mais je pense que je le ferai parce qu'il a l'air assez cool.
Ouais.
En fait, comme son nom l'indique, c'est le dernier chant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les dernières paroles d'Orphée à son fils qui lui raconte un peu sa vie avant de mourir.
Avant de se faire découper.
Je sais pas. Je sais pas justement, mais a priori, il sait qu'il va mourir. Il confesse un peu à son fils tout ce qu'il a vécu.
D'accord.
Et donc son fils qui s'appelle ?
Musée.
C'est bien. Tu suis ? Ça fait plaisir.
Ça fait zizir.
Ça fait zizir. Ça, c'est pour les romans.
Ok.
Après, il y a beaucoup quand même d'écrits autour de ça, de la mythologie grecque. Donc, vous trouvez facilement des choses si vous voulez un petit peu approfondir au niveau des écrits, on va dire, un peu sérieux. Mais ce livre revient quand même comme référence.
Il y a aussi un très bon livre que je pourrais citer. Je ne sais pas s'il fait partie de ta sélection. Mais c'est « La mythologie pour les nuls ». Et ça, franchement, ça aide beaucoup quand on veut chercher un input d'histoire avant d'aller creuser. Voilà.
D'accord. Bah, c'est une belle porte d'entrée.
Voilà.
Donc, côté BD, comics notamment, dans le tome 6 de Sandman, l'excellent comics de Neil Gaiman, chez DC Vertigo,
ouais.
C'est un tome en fait qui s'appelle Mythes et légendes, ou quelque chose comme ça,
ouais.
Fables et légendes, je crois. Et il y a tout un pan qui raconte l'histoire d'Orphée.
D'accord.
Dans l'univers de Sandman, bien sûr. Et je me rappelle aussi, je crois, dans un des premiers tomes, qu'on a la tête d'Orphée, toujours vivante, dans le bureau de Sandman.
D'accord.
Avec qui il interagit de temps en temps.
D'accord.
Mais là, c'est vraiment sur du souvenir.
Ok.
Sur la BD, j'ai vu aussi, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, parce que de l'aperçu que j'ai vu, il y a quelques différences de ce que je sais, moi, sur la mythologie, mais Encore une fois, la mythologie, ça se réinterprète, ça se réapproprie, tout ça. Donc, je ne sais pas, mais je trouve que la porte d'entrée est intéressante pour les jeunes. Il y a Orphée Eurydice, édité chez Glénat, avec en première partie l'histoire de Perséphone et Hadès.
D'accord.
Je pense que ça peut être intéressant si vous voulez initier des jeunes à la mythologie. Ça peut être une belle porte d'entrée. Et après, bien sûr, il faudra approfondir parce qu'on adapte. Pour le film, alors j'ai trouvé une petite pépite. Tu connais mon amour pour les comédies musicales.
Oui, un peu trop d'ailleurs.
Oui. Tu connais mon amour pour les nanars.
Mon Dieu, je crains le pire.
Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé quelque chose qui combine les deux.
Non.
Parking de Jacques Demy, avec Francis Huster, tu te rappelles?
Mais oui.
En fait,
Mais c'est une comédie musicale.
C'est une comédie musicale. Et le personnage... Bah oui, Jacques Demy, déjà.
Ah bah oui, oui.
Enfin, Jacques Demy. Donc, avec Francis Huster. Et donc, en fait, ça se passe dans les années 80.
Ouais.
Et en fait, le musicien dont la copine meurt s'appelle Orphée. Et sa copine s'appelle Eurydice.
Non.
Et Jean Marais joue le rôle d'Hadès.
D'accord.
Voilà, tu te rappelles
Tu te rappelles, non?
Si on a vu la bande-annonce,
elle a mis. Oui, on a vu la bande-annonce, mais on n'a pas vu le film. Mais non. Du coup, ça me donne trop envie de voir le film, maintenant.
Voilà, et eh bien écoute, on fera ça, et peut-être qu'on fera une petite review là-dessus. Ensuite, côté musique, on va aller vite, parce que le titre part de lui-même. It's Never Over, au Orpheus, de Arcade Fire, qui est sorti en 2013. Ouais. Voilà. Et quand on écoute les paroles, c'est clairement le mythe d'Orphée en chanson.
C'est drôle, du coup, de chanter le mythe d'Orphée qui chante des trucs, tu vois.
Une espèce de mise en abîme.
C'est fou.
On est dans la matrice.
Ouais.
Mon petit chouchou de cette sélection. J'ai un petit chouchou.
Je croyais que c'était moi, ton petit chouchou. Je croyais que tu m'appelais mon petit chouchou.
Je t'ai jamais appelé mon petit chouchou. Je suis désolé. C'est pas grave. Don't Look Back, c'est un jeu vidéo sorti en 2009 de Terry Cavana. Il est sorti sur smartphone, il est aussi jouable en ligne, je te cache pas que j'ai passé un petit peu de temps dessus pour le podcast.
Ouais, la vieille excuse.
Mais rien, pas du tout. On vous postera sûrement le lien sur Facebook ou Twitter si vous voulez essayer. C'est un jeu assez minimaliste qui reprend le mythe d'Orphée avec une esthétique des années 80.
D'accord.
On commence donc avec un autre personnage qui est face à une tombe à gauche de l'écran. Mmh. On se déplace vers la droite et on saute dans les enfers. Et du coup, c'est un jeu assez simple à jouer en termes de gameplay, puisqu'il n'y a que les boutons direction, le saut et l'action.
Ouais.
Par contre, il est dur sa mère.
Ah ouais ?
Ah non, c'est vraiment un jeu hardcore où en fait, je suis mort un paquet de fois. Chaque plateau, chaque stage est très minimaliste. Hein. C'est un petit carré qu'on avance assez vite, mais putain, il y a plein d'obstacles, de monstres, de trucs comme ça.
D'accord.
Ouais. Je suis mort une dizaine de fois en trois niveaux.
Je vais pas y jouer parce que sinon moi je vais m'énerver, je me connais.
Oui, je pense pas. Vaut mieux éviter. Et enfin, pour conclure, la fameuse rubrique C'est dans les chevaliers du Zodiac.
Ah !
Voilà, je pense que c'est une rubrique qui va revenir régulièrement.
Je pense qu'on va faire un jingle. C'est dans les chevaliers du Zodiac.
Donc dans le manga, Orphée, c'est le chevalier de la lyre. Forcément. Il est au service d'Hadès, parce qu'en fait, il est resté aux enfers auprès d'Eurydice.
D'accord.
Donc, là, on est sur un truc assez simple. Donc, ce que j'ai trouvé cool dans cette réinterprétation du mythe d'Orphée, c'est qu'en fait, dans le manga, c'est Pandore qui a piégé Orphée. En fait, elle est au service d'Hadès.
Ouais.
Je crois de souvenir qu'elle est amoureuse de lui, ou qu'elle fait, en tout cas, il est sur un piédestal pour elle, donc elle fait tout pour le combler. Et c'est un personnage très... Hadès, hein, je parle.
Ouais.
C'est un personnage très mélancolique, très triste.
Ouais.
Et la musique d'Orphée, en fait, l'apaise.
D'accord.
Donc, ce qu'elle fait, c'est que c'est elle qui a piégé Orphée en mettant de la lumière trop tôt pour qu'il se retourne et que Eurydice soit prisonnière des enfers, pour qu'il reste éternellement aux enfers avec lui et qu'il joue pour Hadès régulièrement.
D'accord. En fait, Pandore, elle est vraiment nulle. Et méchante.
C'est une connasse.
Ouais.
Oui.
C'est ça.
Et je crois même, mais là, je sais vraiment d'aller souvenir, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu aussi, je crois même que c'est elle qui a piégé Eurydice pour qu'elle meure. Mm. Qu'elle a lâché un serpent. Mais là, on est vraiment sur de l'approximation et du souvenir.
Merci pour toutes ces références. T'en as à peu près autant que moi sur cet épisode. Non, mais la prochaine fois, je repartirai sur quelque chose de peut-être plus... pop culturé, je sais pas comment dire. Mais là, j'avais envie, en fait, pour ce premier épisode, comme c'est chez moi, c'est mon pays, je voulais en parler un petit peu. Et puis, je trouvais que ça collait bien avec le thème, l'amour et le... voilà.
Ah oui, complètement. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où tu prends la mythologie grecque, t'es quasiment sûr que ça a été interprété...
Ouais, c'est ça.
Dans les Chevaliers du Zodiaque déjà, mais dans autre chose aussi. Voilà. Mais moi, je voulais vraiment parler du mythe d'Orphée, parce que c'est un des premiers folklores que j'ai connus qui m'a vraiment touché. Voilà.
Et bien, très bien. Bon, ben, on espère que cet épisode vous aura plu. C'est l'épisode 1 de Folklore, parce que l'épisode pilote, on l'avait appelé épisode 0. Voilà. C'était l'épisode test.
C'est le début officiel.
C'est le début officiel. En tout cas, on va essayer de produire un épisode par mois. C'est un petit peu le format qu'on s'est donné, enfin la fréquence qu'on s'est donné. Et toujours avec un thème. Alors parfois le thème sera lié au mois. Clin d'œil, petit indice pour le mois de mars.
N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées de thèmes à nous les mettre sur Facebook et Twitter, parce que nous sommes sur Facebook et Twitter.
Voilà, Facebook c'est la page folklore-du-6 le podcast. Et sur Twitter c'est @lefolklore tout attaché.
On vous rappelle que vous pouvez écouter Folklore sur... Apple Podcast, Deezer, Spotify et toutes les applications Android.
Podcast Addict, etc. Voilà.
Et puis, ben, à très bientôt.
À très bientôt et surtout, bonne Saint-Valentin. Because all you need is love.
Pa-pa-pa-pa.